One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, c'est reparti pour une nouvelle saison. Salut Ariane, salut Ghislain.
Salut. Bonjour Philippe.
Comment ça va?
Bien, ma foi.
Bien, bah, mais y a intérêt, ouais. Parce que là, il faut être d'attaque. Hein. On entame une nouvelle saison sur RPH, sur Divergence. Et alors, on est à la 9e, au moins, je crois. C'est la 9e
saison. C'était pas l'an dernier, ça arrête de compter, je te promets.
C'est vrai, tu as raison, je vais arrêter de compter.
On avait déjà arrêté de compter, c'est pour ça, on sait plus.
On se retrouve donc sur RPH, sur Divergence, comme je l'ai dit. On entame cette nouvelle saison. On s'est dit qu'on allait faire, comme il se doit, une sorte de petit état des lieux. Homosexualité, homophobie, où on en est de tout ça en France et puis de par le monde. On va voyager pendant tout le mois.
Et en fait, on fait nos devoirs de vacances. On raconte qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été.
C'est
notre rédaction de rentrée.
Voilà.
Pendant l'été et sur ces dernières années aussi, parce qu'on va aller peut-être un petit peu ailleurs dans le monde, pas cette semaine, mais les semaines qui suivront. On commence par ce qui s'est passé en France cet été. Premier son, Ariane, tu nous le présentes?
Je pense qu'il parle de lui-même.
Il parle de lui-même.
Juste l'ambiance sonore.
D'accord.
Recueillez-vous.
Ghislain, tu voulais ajouter quelque chose peut-être?
C'est bien qu'un son parle de
c'est
lui-même.
Mieux, c'est surtout mieux en radio. On écoute
une
ça.
Prière pour la France face à la crise et aux choix de société, et notamment sur la famille. Elle s'adresse aux chrétiens, mais aussi de manière très explicite à ceux qui viennent d'être élus.
Pour les enfants et les jeunes, qu'ils cessent d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère.
Cette phrase a pu être entendue comme une charge contre le mariage homosexuel. Alors que le gouvernement s'est prononcé pour une loi dans ce sens, l'Église réaffirme la position qu'elle a toujours eue sur cette question.
Pour la société, on ne peut pas considérer que ce soit la même chose. L'union d'un homme et d'une femme scellée dans une alliance reconnue et ouverte à la possibilité d'avoir des enfants, et puis toutes sortes d'autres unions, notamment l'union de deux hommes ou de deux femmes.
Aucun des quelques fidèles que nous avons interviewés ne dit rejeter l'homosexualité. Pour eux, la prière réaffirme juste un idéal pour les enfants.
Il a insisté sur ce qui effectivement est important pour nous, comme dans la conception de la famille. Après, bien sûr, c'est aux élus à prendre leurs responsabilités.
Je pense que même s'il faut une tolérance vis-à-vis des couples homosexuels, il n'y a pas nécessité d'aller jusqu'au mariage.
Moi, je considère que ce qu'il y a de mieux pour un enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Mais après, ça ne veut pas dire que les homosexuels sont rejetés de l'Église.
SLP, ça calme.
Voilà, donc les journalistes de TF1 sont allés à Saint-François-Xavier recueillir les
témoignages. Saint-François-Xavier, tu dis, toi?
Oui, Saint-François-Xavier.
Françoise.
Saint-François-Xavier.
D'accord.
Donc ça n'est pas juste une station de métro, c'est vraiment... Enfin, bref.
Alors, on rappelle, c'était le 15 août.
Voilà, c'était la prière du 15 août qui a fait un petit peu de bruit sur le plan médiatique. Après,
même pas mal de bruit, on va dire.
Ouais,
peut-être
mais en fait...
Peut-être plus que ce qu'on pouvait imaginer, enfin, quand on...
C'est pas ce qui a fait le plus de battage au niveau rebond. Quand tu vois le mouvement sur Internet, il y a eu d'autres choses au cours de l'été, que ce soit la campagne de Civitas. Il y a eu d'autres moments, il y a eu d'autres temps de mobilisation très droite catholique, un peu. très à droite, qui ont eu en fait plus d'écho que ce moment-là. Il y a eu une grosse chambre d'écho médiatique, mais au niveau de, en termes de mobilisation, c'est pas ce qui a fait le plus d'effet.
Ouais, mais après, effectivement, tout dépend quel média tu suis, parce que, par exemple, pour beaucoup de gens qui regardent encore la télévision, c'est vrai que pendant 2 ou 3 jours, ça a été un battage médiatique assez phénoménal, quoi. Peut-être bien au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer. En tous les cas, quand on connaît aujourd'hui le poids relatif de l'Église catholique en France, on peut s'étonner d'un tel battage médiatique. Je sais pas ce que t'en penses, Ghislain, toi.
Moi, je suis tout à fait d'accord, surtout que non seulement l'Église catholique a pas beaucoup de poids, mais en plus ça s'adressait vraiment aux gens qui vont à l'église, c'est-à-dire allez hop, on va dire 300 personnes. Mmh. Enfin, tu vois, il y a plus grand monde qui va à l'église, ça s'adressait directement à ça. Et c'est vrai que du coup le battage médiatique autour était complètement surdimensionné. Bon, en même temps, ça tombe dans une époque où les journalistes n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, là, oui, il y aura aussi, un truc pense. Croustillant. Et voilà quoi. Moi, ce qui m'ennuie le plus là-dedans, c'est l'irruption de l'Église catholique dans les affaires publiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, une disproportion et un discours complètement réactionnaire et tout
ça. Pourquoi tu trouves ça disproportionné, le traitement médiatique ?
Oui.
Parce que sur la posture de l'Église en la matière...
Non, elle est très logique avec elle-même.
Voilà, et Monseigneur 23, qui s'est exprimé au micro d'Europe 1, mais qu'on n'entendra pas ce soir, parce que ça suffit quand même, il expliquait très bien, interviewé par El Kabash, que pour lui, il est dans son rôle d'alerter les fidèles sur... le changement de société qui s'annonce.
Le terrible changement de société qui s'annonce.
Mmh. Bah, oui. Lui, il juge que oui. Après,
mais qu'il alerte les fidèles, c'est-à-dire les gens qui vont à l'église et tout ça, sur ce prétendu changement de société, ok, pas de problème, sur quelque chose qui lui fait peur et qu'il n'a pas envie de voir mettre en place, je suis d'accord. Mais de là à interférer dans la loi de la République ou dans la démarche du gouvernement et tout ça, je suis désolé, il y a quelque chose qui moi, me dérange profondément.
Ben, là, il y a séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas parce que t'es croyant que t'es plus électeur, citoyen. Donc, voilà, c'est un espace collectif où se véhiculent des idées comme les autres.
Oui, non, mais là-dessus, oui, après, effectivement, c'est la place qu'on donne à ce débat.
C'est traitement médiatique.
Tout à fait.
Oui.
Il faut noter quand même que dans beaucoup de chaînes info sur France 2 et tout ça, les commentaires des journalistes étaient quand même assez ironiques sur cette proposition-là, sur cette prière. Et que dans beaucoup de reportages, il y avait à la fois ce qu'on a entendu là, mais il y avait aussi l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui vont à l'église et qui ne sont pas d'accord avec cette prière et qui l'exprimaient clairement. Mmh. Voilà.
Alors, mais là, c'était TF1, c'était pas pareil.
Ouais. On va pas écouter Monseigneur 23, mais on va écouter...
Heureusement, c'est très court.
Barbarin,
attention, voilà.
C'est ça.
Ah, Barbarin.
Le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage ? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures, dans la meilleure possibilité. Vous voyez ? Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux...
Rupture de société.
Oui, oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient.
SLP, l'émission qui vous trouve le cucu.
Alors ça, c'est vraiment symptomatique de la façon, effectivement, une façon de provoquer et d'alerter. On parle tout de suite de trucs, effectivement, qui vont... effrayer le français moyen.
En plus, je pense vraiment pas qu'elle est là la crainte qui est presque plus rationnelle. Pour moi, la seule source, le truc qui fait vraiment peur, en fait, et on l'a vu d'autres façons, c'est d'ouvrir le mariage à d'autres formes de couple dans une société où on nous vend quand même un cheminement unique vers l'épanouissement et la réussite qui passe par le mariage, la parentalité et la propriété d'une maison avec jardin. Le chien, pardon. La voiture. Deux voitures.
Le canapé.
Le canapé d'angle convertible. Enfin, le salon. Même. Ouais, attends. Voilà.
Et les plaques à induction.
Et maintenant, les poêles céramiques. Donc oui, maintenant, d'ouvrir la possibilité de se marier civilement, toujours, puisque c'est la question, à des couples qui ne sont pas hétérosexuels, ça veut dire rendre possible de suivre cette voie unique, étroite, mais voilà.
C'est intéressant.
Non, mais c'est...
Mais est-ce que ça fait si peur que ça encore? Je sais pas.
Moi, c'est la seule explication... C'est la seule façon... qui me permet de comprendre, en fait, que ça puisse faire autant réagir. Parce que sinon, oui, que des gens se marient à côté de toi, qu'est-ce que t'en as à faire? Ça fait un peu plus de klaxons le samedi, enfin, je sais pas.
Moi, j'ai l'impression que, justement, ça fonctionne pas forcément, et que, du coup, on est obligé d'aller sur un terrain beaucoup plus scabreux, on va dire. On parle de couple à plusieurs, on parle d'inceste.
En attendant la pédophilie et la zoophilie.
Oui, voilà. Bah, on nous l'a déjà fait, le coup, en plus.
Oui,
hein,
on paxe. Mais ça va ressortir.
Brigitte, c'est complètement
fou. Ça va
nos
ressortir.
Amis à Montauban, ne la réalisez pas, merci.
Parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens, non seulement dans le milieu urbain, mais même dans des contrées plus reculées, en zone rurale, où en fait on a les gens peuvent côtoyer des couples homo, des familles homoparentales, des familles recomposées. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de diversité. Et on voit bien que l'opinion publique là-dessus, sur les 10 dernières années, elle a quand même vachement évolué. Donc je pense que ça fait pas... Ça fait peur peut-être encore à certains, mais pas tant que ça. Et ça commence à passer de plus en plus.
C'est du quotidien. Ça passe aussi peut-être au niveau des gens que nous, au comptoir. Parce que quand tu poses la question aux députés maires, ou d'ailleurs pas forcément maires aussi, UMP, souvent on dit que voilà, les élus sont à la traîne par rapport à une population.
Écoute.
Une question sur le mariage homosexuel. Si la loi passe, est-ce que vous accepteriez de célébrer une union sur votre commune en tant que maire?
Si la loi est votée, évidemment que je l'appliquerai.
Je suis maire, par ailleurs, et non.
Imaginez un député qui vous dirait qu'il n'appliquerait pas la loi qui aurait été votée.
Non, je ne le ferai pas, non. Mais même si c'est un couple d'amis, non, je ne le vois pas célébrer un mariage.
Non, je crois qu'on est en train d'assister à une véritable révolution anthropologique.
C'est une question qui n'a pas de sens. Un élu de la République, il applique les lois de la République.
Pour moi, c'est différent. Mais la loi peut être respectée sans que les personnes participent à cela.
Ben, je demanderai à mes adjoints, ceux qui souhaitent le faire.
Il me semble nécessaire d'étudier, comme on le fait pour le corps médical par exemple, ou d'autres professions, des cas dans lesquels une objection de conscience est possible.
Oui, moi je garde ma liberté de conscience, vous voyez.
Il y a des adjoints, je le sais déjà, qui sont tout à fait disposés à le faire, d'autres qui préféreraient que ce soit d'autres qui le fassent. Mais moi, si on me le demande, je le ferai.
J'appliquerai la loi parce que je suis un républicain, mais pour moi, ce mariage sera nul et non avenu, parce que ça n'a aucun sens.
Si c'est vous deux qui vous mariez, oui, sans problème, je prendrai même une inscription pour vous offrir un cadeau.
Je pense qu'effectivement, je demanderai à un élu, autre que moi-même, de pratiquer ce genre de mariage.
Il n'est pas question qu'on le fasse avec la bouche de travers.
Si personne ne veut, et ben à ce moment-là, on réquisitionnera quelqu'un.
Et je dirais aux gars, vous connaissez ma position, on va pas faire épiloguer, et puis c'est tout, ou aux femmes, etc. Mais ça n'a aucun sens. Il faut avoir de la semoule dans la tête pour être à ce degré d'absurdité.
Nous avons entendu Jean-Christophe Fromentin, Patrick Balkany, Édouard Philippe, Philippe Gosselin, Lionel Lucas, Franck Régnier, Patrick Ollier, Claude Gloesgen, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Millard, Gilbert Collard et Yves Nicolin. Merci Strist Press.
Bon, ben voilà quoi. Oui, bah c'est-à-dire un élu de République qui refuse de respecter la loi. Et en plus, ça fait partie des gens comme Lionel Lucas qui posent le respect de la loi comme principe fondamental. On se rappelle tous les trucs avec Sarkozy, les lois sécuritaires, etc. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ces pauvres élus? Depuis quand est-ce qu'on choisit quelle loi on doit appliquer et quelle loi on ne doit pas appliquer?
Vivement que les lois passent pour voir comment ils vont pouvoir gérer cette posture contradictoire. Moi, franchement, ça m'intéresse, quoi. Un petit peu de courage politique, monsieur François Hollande, je pense que ça serait bien que la mesure passe très, très rapidement, que les lois passent rapidement. Je ne sais pas, en 81, il y a eu abolition de la peine de mort. Voilà, c'était un vrai courage politique. Je pense que François Hollande, s'il veut une mesure qui sera sera peut-être pas à la hauteur, mais quand même qui sera notoire.
Forte.
Et forte. Ouais. Voilà, c'est un peu de courage politique, on en manque un peu en France. Je pense que c'est le moment d'en faire preuve, non ?
Non, je pense à un courage dans une écriture beaucoup, enfin si politique aussi, mais voilà. Mm-hmm. Je pense à Agnès Bill, là, excuse-moi.
D'accord, bah on l'écoute si tu veux.
Allez.
C'est parti.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, façon ici, y a pas de boulot. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance, et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances, sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne, faut se zigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime, faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir, faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos, pour faire naître ceux qu'ils vont taxer plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces, le temps qu'ils closent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la dasse. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sur leur tonsure et revendiquent leurs petites calottes, sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et séropositif, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plus, on te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés, au ciel y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que de crever seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu, hey. Dis monsieur, je te crois pas, t'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera, on l'a faite sainte, pas faiseuse d'ange.
Je te laisse le soin de désannoncer.
Donc, c'était
Ariane.
L'enceinte Vierge, Agnès Bill. Pendant vos dents. Dans les miennes aussi.
Ça décape, on peut le dire.
Ouais.
Ensuite, on écoute Natacha Polony.
D'abord, s'il te plaît, un peu de douceur. On écoute d'abord notre.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un peu abrupt, Natacha Polony,
oui.
D'emblée.
Oui, comme donc... ça, direct. Ouais. Franchement, là, t'exagères.
C'est vrai.
Voilà. Oui, là, d'abord, alors, du lubrifiant.
Dans un soin des auditeurs. Du lubrifiant. Ça va faire plaisir à tout le monde. Et donc, le lubrifiant, en l'occurrence, c'est la mère du Marais. C'est ça.
C'est la mère du Marais, ouais.
Non,
c'est notre ministre de la famille.
Tu crois qu'elle cumule? Je pense pas.
Je pense pas, non, mais enfin, c'est voilà. Important que c'est la maire du 4e arrondissement, Madame Bertinotti, qui est devenue donc ministre de la famille.
Est-ce qu'elle est encore maire du Marais?
Ça, je ne sais pas. Mais elle l'a été au départ.
On la dénoncera pas ce soir.
Non, au contraire, on l'aime bien.
On l'écoute.
Deux jours après avoir été nommée, j'ai dit que, certes, j'avais le titre officiel de ministre de la famille, mais que j'étais avant tout ministre des familles et de toutes les familles. Aujourd'hui, nous avons une diversité totale de la façon de faire famille. Mais nous constatons que tous n'ont pas les mêmes droits. On dit le mariage pour tous, c'est-à-dire que des couples de même sexe vont pouvoir se marier.
L'association d'un homme et d'une femme
pour faire un enfant. C'est ça le principe. C'est celui de la procréation et de la perpétuation d'elle-même par une société. C'est l'union d'un homme et d'une femme, deux êtres de sexes différents. Il se trouve que la nature fait que c'est comme ça. Et justement, c'est pour ça que je soulignais la question du vocabulaire. Quand on veut effacer, gommer le réel, on commence par changer les mots. Et le fait que vous choisissiez de parler de mariage pour tous est déjà très significatif, puisqu'en fait, c'est une façon, justement, de gommer cette réalité pour nous dire que s'il n'y a pas un mariage pour tous, c'est une inégalité insupportable. Mais nous sommes égaux en droit, nous ne sommes pas égaux par nature, nous ne sommes pas égaux de fait. Il y a des différences, je suis une femme, Aymeric est un homme, donc il y a des différences entre nous.
Et nous sommes tous citoyens.
Bien sûr que nous sommes citoyens, mais ce n'est pas en tant que citoyen qu'on se marie.
Le mariage civil, le quotidien. Écoutez, mariage pour tous.
Je suis contre le mariage pour tous, en effet. En revanche, je suis pour le droit qu'on peut avoir d'élever des enfants, parce que ce sont deux choses différentes. Mais je suis contre le fait qu'on maquille la nature et qu'on maquille le réel.
Je vais vous citer Napoléon.
On laisse répondre Madame la ministre.
Je vais vous citer Napoléon, qui parlait du code civil, et à qui on doit justement le code civil, et qui disait « les lois sont faites pour les mœurs varient, et donc le mariage subira des modifications de façon permanente ».
Mais parce
donc
que Napoléon,
disait,
à son époque, n'imaginait pas
dès la constitution
qu'on reviendrait
civil.
Sur l'anthropologie. Donc...
SLP, la émission.
Dis-moi, Ariane, elle s'est scratchée toute seule, Natacha, ou tu l'as aidée à la fin, là?
Ça partait en voilà, puis j'en avais marre, franchement, elle me donne mal au ventre. Hein.
C'est ouais. Clair qu'en trois phrases, elle nous fait vomir. Mais c'est incroyable que cette nana, elle vit dans une réalité qui n'existe pas.
On est d'accord. Ouais, j'allais partir là-dessus.
Elle est totalement dans le fantasme d'une société qui n'existe pas. Mmh. Aujourd'hui, on a besoin en effet d'un homme et d'une femme pour faire un enfant. Bon, voilà.
Mais
oui, il y a des femmes qui le font. Enfin, on a besoin quand même d'ovaires et de spermatozoïdes qui sont portés par des hommes et des femmes.
Mais il y a des personnes qui se définissent pas comme homme ou comme femme,
d'accord.
Et qui sont en capacité de.
Et puis bon, mais on ne fait pas des enfants avec de la pensée magique non plus. Donc quand elle parle de gommer la réalité, maquiller le réel ou je sais pas quoi, mais effectivement, dans quel monde elle vit, quoi?
Elle vit dans le monde de toutes ces personnes qui sont très inquiètes à l'idée d'eux, et elle est dans une bien-pensance telle qu'on la laisse avoir ce genre de propos sans
c'est
être interrompue plus
de,
que
c'est
ça.
Même pas de la bien-pensance. On ne sait pas de la bien-pensance. C'est un discours qui n'a pied dans aucune réalité concrète de la vie des gens. Voilà, c'est ça en fait.
Sauf qu'il y a plein de gens qui vivent une vie qui est bien réelle et qui croient le discours qu'elle porte.
Tu veux dire qu'on vit encore dans un état de nature, parce que ce qu'il y avait avant, c'était la nature, l'ordre naturel des choses et tout ça, dans ce qu'elle disait. T'as encore des gens qui croient qu'on est dans un état de nature et que l'ordre naturel des choses, c'est que la société a créé le mariage pour... déjà, on n'est plus dans la nature, et qui a créé le mariage pour pouvoir se reproduire et tout ça. Déjà, le terme de se reproduire est horrible et tout ça. Et, enfin, tu vois
la
ce truc-là.
En France, la pensée... Je veux dire...
Qui croit encore aujourd'hui que le mariage, c'est le seul endroit pour faire des enfants?
On l'a entendu dans la bouche de plusieurs personnes.
Oui, tout à fait. Non, mais après...
Mais c'est
voilà,
aussi c'est, un problème c'est... étymologique.
Oui, mais c'est le discours qu'on plaque sur ce sujet-là. Parce que quand on l'entend, moi, du coup, derrière, j'ai envie de connaître sa position, je ne sais pas, sur la contraception, sur la chirurgie médicale. Tu vois, c'est complètement hallucinant.
Au sein de cette même émission, il y a un autre invité qui a parlé de rôles proprement masculins et féminins regardant les rôles parentaux. Et elle a dit « Ah non, mais ça n'existe plus, ça, vous vivez où ?» Et il ne faut pas que ça existe. Et donc, elle avait un discours comme ça, moralisant et normalisateur, qui allait à l'encontre des stéréotypes de genre, enfin, plus ou moins. Donc, voilà. Mais non, pour moi, elle... Mais en fait, je trouve qu'on est encore vachement énervé par ce qu'elle a dit. Je vous propose qu'on écoute quelqu'un qui nous démonte un peu ce qu'elle raconte, qui va nous faire du bien. Parce que là, on est un peu trop énervé.
Tu veux parler de qui ?
Sophia Aram.
D'accord.
Et moi qui croyais bêtement qu'un couple stérile ou bien qu'une femme ménopausée avait le droit de se marier Eh ben non, le mariage n'est pas fait pour eux. Pareil pour deux retraités qui auraient décidé de se marier plutôt que de concubiner sauvagement jusqu'à ce que la mort les sépare. Eh ben non, ça marche pas non plus. Puisqu'on vous dit que le principe, c'est la procréation, rien à cirer de savoir s'ils s'aiment ou pas. Le mariage, c'est fait pour se reproduire. Mais oui, il ne faut pas contrarier la nature. Le mariage, c'est naturellement un homme et une femme cherchant à se reproduire. Mais alors, c'est là que moi j'ai un problème. Parce que je ne sais pas si Natacha Polony a vu le film La guerre du feu, mais dans mes lointains souvenirs, l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire bien avant la mousse à raser, le déodorant et la crème dépilatoire, n'était pas franchement du genre à épouser sa partenaire avant de tenter de se reproduire avec elle. Ah non, 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 il était plutôt du genre à taper dans le premier derrière venu et à la limite, je me demande s'il avait assez de discernement pour distinguer un derrière féminin d'un derrière masculin, voire d'une malheureuse biquette égarée. Enfin, rapport au fait que, comme la crème dépilatoire n'existait pas, j'imagine que la plupart des femelles avaient le maillot plutôt fourni, ce qui n'aidait pas à distinguer les genres. Voilà. Enfin, bon. Je me demande si le fait de réduire le mariage à la fonction reproductrice et poursuivre par le respect des lois de la nature, qui, on n'y peut rien, a préféré réserver la reproduction à la rencontre d'un homme et d'une femme, si on n'est pas, tout simplement, en train de nous ressortir la bonne vieille idée qu'il existe des relations contre nature et qu'il est hors de question de leur donner une quelconque légitimité dans le cadre d'une institution comme le mariage. Alors moi, je propose d'étendre le débat à toutes les relations contre nature, comme s'embrasser sur la bouche, par exemple. Ben, vous conviendrez, ça n'apporte pas grand-chose à la fonction reproductrice. Mmh. Et je ne vous parle même pas de cunnilingus ou de sodomie,
non, non, non.
Parce qu'on avait dit pas de sodomie à l'heure où les auditeurs prennent leur petit déjeuner.
Non, non, non.
En tout cas, moi je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte d'écouter la suite des débats, parce que je suis certaine qu'ils seront croustillants.
Voilà, rendons grâce à Sainte Sophia.
Ouais, c'est la réponse appropriée. Donc ça, c'est sa chronique sur France Inter, c'est ça? Enfin, sa chronique, oui. son billet.
Son billet voilà. Le matin, ouais. Mmh.
Bah effectivement, là, on a 3 minutes pour conclure, mais la réponse est plus qu'appropriée. Effectivement, l'état de nature, aujourd'hui, dont nous parle Polony, on s'interroge, quoi. On s'interroge.
Bah, on s'interroge. Surtout, cet état de nature, ça fait longtemps qu'on n'y est plus, déjà. Et on est même passé au-delà, puisqu'on a parlé de l'an passé des cyborgs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est passé même au-delà de l'humain. On est dans le sud.
Dans le
ça, si tu veux dire qu'on
ouais.
est plus en avance que Natacha.
Ah ben,
mais Natacha est pourtant très techno. Voilà, tu verrais sa coupe de cheveux.
Bah, je
c'est
vois.
Pas
ouais,
tout naturel.
Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Elle a un côté très dandy, même.
Elle a un côté très dandy. Mais tu sais, ça fait... moi, elle me fait penser beaucoup à ce qu'on disait sur Zemmour. Tu sais, c'est-à-dire les mecs qui sont très cultivés et qui ont un discours qui... et qui se servent de ça pour se poser en expert, mais qui ne tiennent pas la route, tu vois. Et elle, je trouve que dans cet exemple-là et dans cette soirée-là, son discours, il ne tient absolument pas la route parce qu'il est, basé sur des choses qui n'existent pas.
Mais le problème, c'est qu'elle a le verbe suffisamment haut.
Mais pour moi,
si elle est un contradicteur à sa hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas.
Moi, franchement, j'ai été impressionnée que la ministre elle reste calme. Enfin, moi, j'aurais pas pu garder
alors,
mon
peut-être
calme.
Qu'on l'a pas assez entendu, Bertinotti, mais qu'est-ce qu'elle a pu répondre effectivement à ces propos-là.
Elle est restée calme, on a entendu une partie quand même de ce qu'elle reprenait. Mm-hmm. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que que ce soit Éric Zemmour ou Natacha Polony, je pense que ce sont des gens qui sont arc-boutés sur certaines visions de la réalité parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à vivre avec, en fait. Ils ont besoin d'avoir un discours extrêmement construit et qui se tienne logiquement pour eux pour exister là-dedans, sinon ils sont en panique. Et je pense que c'est pour ça qu'il est d'autant plus difficile de mettre un grain de sable dans leur discours, parce que ils en ont besoin viscéralement, quoi.
Bon, en tout cas, c'est que le début.
C'est que le début.
C'est-à-dire la loi est même pas au Parlement et tout ça, donc on va bien rigoler dans les prochains mois.
On se retrouve la semaine prochaine.
Yes.